Europe 1, historiquement vôtre.
Yannick Hennel, merci d'être resté avec nous sur Europe 1. « Je est un autre », écrivait donc Rimbaud, mais il est resté d'autres formules célèbres de lui. « La vraie vie est absente »,« Changer la vie », »,« L'amour est à réinventer ». Ces formules proviennent justement de son fameux recueil « Une saison en enfer » et sont pour la plupart devenues des slogans. Rimbaud a été incompris de son vivant. Est-ce qu'il l'est toujours aujourd'hui ? Est-ce qu'on saisit bien l'essence de ces mots ou est-ce que demeure toujours le mythe rimbaldien ?
Ben vous savez, moi j'aime bien les mythes, j'aime bien les clichés. Je crois que c'est Baudelaire qui disait que l'essentiel, c'est de créer un cliché. Il y a une part qu'on n'arrivera jamais à comprendre, comme dans toute véritable littérature, il y a une part énigmatique, mais je crois qu'on comprend. Je pense qu'une adolescente ou un vieux monsieur lisant Rimbaud, c'est pareil, il y a un accès direct. C'est Rimbaud qui disait la poésie, c'est littéral et c'est dans tous les sens. Vous voyez, littéral et dans tous les sens. Donc en fait, il y a pas de malentendu Rimbaud. À l'époque, ça a été très compliqué, c'était un jeune homme et la littérature, c'était pas comme aujourd'hui, en fait. Il a été dégoûté, en fait, par les gens qu'il a rencontrés. Il les trouvait trop bourgeois, trop parisien, trop vieille France, je sais pas. Mais il était extrêmement révolté, sauvage. Et quand on lit Rimbaud aujourd'hui, il y a à la fois quelque chose, oui, d'infiniment fou et broussailleux, et également de direct, d'amoureux. Voilà, on ne peut qu'avoir un rapport amoureux avec Rimbaud.
Depuis le début du XXe siècle, de nombreux auteurs et artistes ont raconté leur fascination pour Arthur Rimbaud. Paul Claudel, Léo Ferré, Patti Smith, par exemple. Comment vous expliquez cette aura suscitée par ce jeune poète ? Là, on est au cœur du mythe rimbaldien, justement.
Oui, il suscite des engouements, effectivement, les beatniks, Dylan aussi, tous ceux que vous avez cités sont tous merveilleux. D'ailleurs, ils se sont inséminés quelque chose de Rimbaud. Il y a l'absolu, tout simplement, il y a la beauté de l'absolu. Voilà quelqu'un qui a vécu en conformité avec ce qu'il écrivait et qui a écrit ce qu'il vivait, qui relève de ce qu'il appelle le dégagement rêvé. Voilà, c'est la vie de bohème, cette expression un peu convenue, un peu ironique, s'il y en a bien un qui l'a vécu splendidement, c'est Rimbaud. Enfin, l'accord sauvage avec ce qu'il en est de la jeunesse et de ses idéaux qu'il n'a jamais trahis, c'est chez Rimbaud que ça se passe. C'est lui qui a inventé bien avant l'heure. Je ne sais pas, quand Patti Smith l'aime, on se dit que c'est parce que pour elle, c'est un punk, c'est le vrai punk. Et voilà, la liberté, tout simplement. Il y a une expression très belle de Rimbaud dans sa correspondance, c'est la liberté libre. Vous voyez, le redoublement de la liberté. La liberté, oui, mais libre.
Yannick Hennel, j'aimerais vous interroger maintenant à propos d'un cliché qui est devenu iconique, c'est le portrait d'Arthur Rimbaud réalisé par Étienne Carjat en 1871. Que vous inspire à vous cette photo ? Qu'est-ce qui en émane ?
Ah ben ça, c'est merveilleux. Je crois qu'on a tous été requis par cette photographie un jour ou l'autre. Ben c'est l'insolence, tout simplement. Il y a un côté mauvais garçon, mais en même temps premier de la classe. Donc c'est l'idéal, enfin. Premier de la classe et mauvais garçon. Victor Hugo, je crois qu'il disait de Rimbaud, c'est Shakespeare enfant. Rimbaud, c'était le révolté absolu. C'est un type sans doute assez mal commode, un peu teigneux, très aventurier, dormant à la belle étoile et effectivement éventuellement ombrageux. Mais en même temps, il connaissait le latin sur le bout des doigts, il avait tout lu, il écrivait comme personne. Et ça se voit dans cette photographie qui a fixé à jamais ce que vous appelez le mythe, avec raison, enfin le mythe Rimbaud. C'est une des plus belles choses qui existent. Non seulement dans la littérature, mais dans le langage, je sais pas, même dans la, c'est plus beau que la pop musique. En fait, c'est la pop musique incarnée dans une langue à la fois classique et libérée.
Dans votre préface d'Une saison en enfer, Yannick Hennel, vous écrivez que ce recueil est une insurrection. Contre quoi Arthur Rimbaud s'insurge-t-il ? Contre la société qui l'entoure et qu'il rejette ?
Alors oui, vous avez raison de poser la question parce que Une saison en enfer, c'est un texte très parfois sibyllin et parfois fulgurant, où il s'en prend, effectivement c'est un grand texte de révolte qui raconte entre autres aussi ses amours avec Paul Verlaine, mais il s'en prend à trois choses, à la religion, qui était très dominante dans la société française, à la société, disons, industrielle, à ce qu'il appelle la science, qu'il trouve lente. Et il y a des pages extraordinaires pour nous aujourd'hui sur la pollution, enfin, ce n'est pas le mot qu'il emploie, mais sur ces villes sinistres. Il a beaucoup passé de temps à Londres, Et puis la dernière chose, c'est la famille. Voilà, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes avec sa mère, mais pas seulement. C'était l'esprit comme ça coagulant, la glu qui nous réduit à n'être jamais qu'un fils ou une fille. Et bon, Rimbaud, c'est l'un des premiers grands révoltés. Enfin, il y a quelque chose d'assez démoniaque quand même chez lui. Et comme vous le savez, le démon a ceci de particulier qu'il nous libère quand même. Même s'il nous emprisonne, il nous libère.
Pour Rimbaud, le poète était un voleur de feu. Cette ambition était trop ardente et finalement impossible à assouvir, non ?
Oui, c'est possible. Il y a d'ailleurs à la fin d'une saison en enfer, puisque ce sont des petits blocs de texte en prose et parfois en vers, il y a un morceau qui s'appelle L'impossible. Et je pense que c'est ça, c'est une exigence, l'impossible. C'est contrairement à ce que dit le proverbe, justement, Rimbaud pourrait dire « à l'impossible, nous sommes tenus ». Et « voleur de feu », c'est très beau, c'est Prométhée, voilà. Il y a quelque chose dans le geste d'écrire de la poésie qui dépasse le simple fait de faire des rimes, de rimailler. Il a été le premier, après Baudelaire, enfin Baudelaire accomplit la poésie française, mais Rimbaud s'est dit qu'il fallait s'en sortir de la poésie, il fallait faire de la poésie en dehors de la poésie, éventuellement dans sa vie. Et c'est ardent, c'est impossible, comme vous le dites, c'est absolu. Mais je crois que c'est ça ce qui est le plus beau, enfin, c'est cette tentation d'aller toujours plus loin.
Yannick Hennel, on commémore cette année les 150 ans d'une saison en enfer. Ce recueil est devenu un incontournable de la littérature française et pourtant, cela n'était pas gagné puisque le manuscrit a, comme vous le racontez, moisi dans les cartons d'un imprimeur bruxellois pendant plusieurs décennies.
Absolument, c'est une histoire abracadabrante. Comme vous le savez, Rimbaud n'a rien publié, sauf une saison en enfer, effectivement. Il avait payé le premier tiers ou la première moitié, mais il n'a pas réussi à avoir l'argent. Je crois que c'est sa mère qui avait payé. Il n'avait pas réussi à avoir la seconde moitié. Résultat, on ne lui a pas donné, ça n'a pas été distribué. Il a pris 10 exemplaires, il y en a un qu'il a offert à Verlaine. Il est allé l'apporter à la prison, puisque, comme vous le savez, Verlaine venait quelques mois plus tôt de tirer au pistolet sur Rimbaud et des amours très passionnés enfin et ce manuscrit a failli ne jamais voir le jour. Il a pourri effectivement pendant longtemps dans des cartons. Il y a énormément d'exemplaires qui étaient inutilisables, illisibles, mais on en a quelques-uns. Je crois qu'il y en a deux ou trois. Je ne suis pas un spécialiste comme ça de la génétique des textes, mais il me semble qu'il y en a deux ou trois. Il y en a un à la BN. Et c'est un miracle au fond, parce que les textes de Rimbaud que nous on lit comme ça très tranquillement, c'est parce qu'il les avait passés à des amis, à Germain Nouveau, à Verlaine. Ça n'avait pas été vraiment imprimé, c'était par lettre, vous voyez, il envoyait ça dans des courriers. Donc c'est très très, on s'imagine pas aujourd'hui que la littérature ça se fait comme ça entre amis, dans des cabarets, le soir, au café. Ça se déclame comme vous disiez, et puis éventuellement, ça se perd avec le vent.
Justement, 150 ans après, Gallimard publie donc une réédition d'une saison en enfer qui contient des reproductions en fac-similé des manuscrits de Rimbaud. Oui. On y voit ses ratures, son écriture dense. On imagine ainsi le processus de création du poète. Que sait-on, justement, de l'écriture d'une saison en enfer ?
Alors, c'est magnifique parce que précisément, comme on le disait, là, il rentre un peu au bercail chez sa mère, dans les Ardennes, là, à Charleville. Dans un hameau qui s'appelle Les Roches. Et il va s'enfermer dans ce grenier d'avril à juin 1873. Il est en convalescence. Il y a eu justement cet incident. Verlaine lui a tiré dessus à Bruxelles. Et il va écrire en quelques mois, donc avril, mai, juin, juillet, août. En cinq mois, il écrit ce texte ardent, qui est un texte aussi qui dit... tout le ridicule qu'il sent dans la poésie. Parce que le paradoxe, c'est que nous, on lit ça comme un manifeste pour la vie libre, pour la vie poétique, ce qu'il appelle l'alchimie du verbe. Il raconte comment il s'est pris pour un mage. Mais il le dit avec ironie, avec sarcasme, alors qu'on peut le lire au premier degré en disant bah « oui, c'est ça, être un poète ». Et donc, c'est tout seul dans un grenier, et sa sœur en témoigne. Sa sœur, il avait deux sœurs, dont une qui l'idolâtrait, et qui raconte qu'il plaquait des accords de piano. Il pleurait, il hurlait tout seul, il déclamait ses poèmes et il ne descendait jamais au champ pour aider les paysans avec qui, d'habitude, il était voisin.
Est-ce que vous avez espoir que de nouveaux manuscrits jusque-là perdus refassent surface ? En 1874, Arthur Rimbaud avait fait part dans une lettre d'un projet intitulé « Histoire splendide ». Mais que sait-on de ce projet littéraire ?
Ah, ça me fait rêver, oui. L'histoire splendide, il en parle effectivement dans une lettre, vous avez raison. J'ai même essayé parfois dans mes rêves un peu fous d'écrire quelque chose, non pas à la place de Rimbaud, mais qui se rapproche de ça. Ce qu'on en sait, c'est qu'il voulait un peu parodier, mais comme toujours chez lui, c'est très sérieux aussi. Vous savez, ces petites histoires de France pour enfants, les grands moments de l'histoire de France, de Vercingétorix à 1870. Mm-hmm. Mais ça devait être quelque chose comme une prose enluminée, comme un petit vitrail. Et on ne sait pas. On pense qu'il a un peu écrit ça du temps où il vivait chez Paul Verlaine, rue Monsieur le Prince, là à Paris, mais ça s'est perdu. Et il y a plein de manuscrits comme ça qu'on a un peu hallucinés aussi de Rimbaud. Il y a eu des manuscrits qui sont sortis, qui étaient des faux. Mais pour répondre à votre question, oui, j'ai bon espoir, parce que pour moi, la littérature, c'est une mémoire qui prend en compte tout ce qui s'est écrit depuis toujours, mais c'est une mémoire en avant. Et comme vous le savez, les choses ressurgissent, il y a un gisement comme ça. C'est possible un jour, voilà, qu'on ait juste un poème, ce serait beau.
Hein. Dans cette préface que vous signez, Yannick Haenel, vous écrivez qu'on croit l'avoir lu, mais qu'avec Rimbaud, c'est toujours la première fois. C'est peut-être ça, finalement, le mystère Rimbaud.
En vous écoutant, j'ai l'impression qu'on parle d'amour, là. Toujours la première fois. Mais c'est vrai, c'est... Moi, j'ai plein d'éditions devant moi. Là, j'ai une petite édition un peu cheap de Rimbaud, parce que j'adore souligner et parfois je déchire des pages pour les donner à des amis. Mais je me rends compte que selon la typographie, la mise en page, je suis troublé. Je me déshabitue de Rimbaud. Et ça n'arrive pas pour tous les écrivains. J'ai l'impression que Rimbaud a quand même rejoint dans son génie quelque chose de natif dans la langue. Vous savez, cette chose qu'on a en nous au matin, ou parfois à 3h ou 4h du matin, si on a bu un peu trop, parfois on est juste à l'acuité qu'il faut pour faire naître du langage. Et quand même Rimbaud, qui pour moi est un poète du matin, un poète de l'aurore splendide, on est exactement à la naissance du langage. Et ça se voit, ça s'entend, ça se lit. Et du coup, la naissance, comme vous le savez, on n'en finit pas de naître et c'est chaque fois différent.
Yannick Haenel, pourquoi il faut continuer et inciter d'ailleurs la jeune génération à lire Rimbaud aujourd'hui ?
Parce que je pense que Rimbaud, il est porteur d'une éthique. Et l'éthique, comme vous le savez, ça consiste avant tout, me semble-t-il, à conformer sa vie avec ce qu'on pense, avec ce qu'on aime. Et moi, ce que j'aime dans Rimbaud, dans le mythe Rimbaud, mais aussi dans ses écrits qui tiennent en 50 pages, c'est que c'est exactement pareil, sa vie et son œuvre. Et je crois que c'est ça l'absolu, pour utiliser un grand mot, parce que quand on aime Rimbaud, on n'a pas peur des grands mots. Et voilà un exemple pour des jeunes gens. Moi, j'ai été professeur dans des collèges et lycées pendant plus de 17 ans en banlieue. Et Rimbaud, ça leur faisait toujours quelque chose. Quand je sortais mon Rimbaud, comme il disait, de ma poche, d'un coup, je disais, tiens, je vais vous lire ça. Et je racontais un peu. Il y a une invitation à attendre plus de la vie. Vous voyez, je crois que Rimbaud, c'est important pour les jeunes gens, parce que je pense qu'ils y reconnaissent quelque chose qu'on a appris aussi à reconnaître chez des icônes du rock, le fait qu'on peut être comblé par l'existence, voilà, qu'on peut être comblé.
Magnifique. Merci beaucoup Yannick Haenel de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la descente aux enfers, une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Je rappelle que vous préfacez la nouvelle édition à l'occasion du 150e anniversaire de sa première parution du recueil « Une saison en enfer » aux éditions Poésie Gallimard, illustrées des rares brouillons de Rimbaud conservés à la Bibliothèque nationale de France. J'en profite pour signaler la parution conjointe d'une saison en enfer 1873 d'Arthur Rimbaud, avec des photographies, des dessins et des écrits signés de la formidable Patty Smith dans la collection Blanche de Gallimard.
Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.